5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
Eh oui, on lance ça en force, c'était nos amis de Mister Valeur qui étaient sur la scène de Victoire il n'y a pas si longtemps que ça. Une auberge espagnole dans laquelle nous allons tout d'abord parler avec Pierre Guiraud, vice-président du Conseil Général, parler d'une enquête sur les déplacements dans le territoire de l'Hérault. Une enquête qui se déroule d'octobre 2013 à avril 2014 et qui a pour objet évidemment de savoir comment les gens se déplacent dans le département afin d'améliorer l'offre de transport actuelle et de déterminer les nouveaux équipements et infrastructures nécessaires demain. Puis nous aurons Pierre Buisson dans les studios de l'association Les Vrais Amis du Père Prévost, une association née de la volonté d'habitants du quartier des Beaux-Arts de conserver le stade dit du Père Prévost, rue Beauséjour à Montpellier, menacé de disparition par un projet immobilier de 280 logements. Côté culture, ce sera le Festival International des Mandolines de Lunel qui sera à l'honneur. Nous aurons au téléphone Olivier Chabrol qui nous présentera la 10e édition de cet événement désormais mais incontournable pour les amoureux de la mandoline et de la musique en général, car la qualité de programmation est toujours au rendez-vous. Mais avant tout ça, un petit peu de musique pour illustrer le thème des transports. Old Train des 40 Winks, extrait de l'album de 2007 Sound Puzzle. 2, 3, 4, 3, 2, 1.
Nous sommes au téléphone avec Pierre Guiraud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes vice-président du Conseil général, délégué à l'aménagement et à l'économie des territoires. Vous êtes un enseignant à la retraite, professeur de mathématiques. Et c'est un petit peu de mathématiques qu'on va être amené à parler, puisqu'on va parler d'une étude sur la mobilité, les transports, les déplacements des Héraultais, qui a démarré, qui va être menée jusqu'en avril 2014, et qui est une première. Alors, qu'est-ce qui... Alors, on connaît l'afflux de population que connaît le département de l'Hérault depuis pas mal de temps. On imagine que cette donnée n'est pas étrangère au fait de faire cette étude, mais quels sont les autres facteurs qui ont amené à entreprendre ce vaste travail ?
Oui, c'est vrai que la croissance démographique, c'est le point de départ de notre réflexion. Mais la volonté dans cette étude qui est inédite, hein, puisque jamais réalisée dans ce pays, c'est aussi pour nous la volonté à un moment donné d'avoir sur le territoire départemental une photographie. Cette photographie à l'instant T qui va à la fois nous permettre de savoir ce qui se passe le jour même ou le jour d'avant, puisque quand nous allons enquêter, nous allons demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait hier en matière de déplacement. On sera bien sûr hors période scolaire pour être dans un temps bien sûr tout à fait logique et fixe. Et puis cette étude nous permettra donc de nous projeter sur l'avenir. En clair, je crois que c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, nous savons les uns et les autres que les déplacements sont au cœur de notre vie quotidienne. On se déplace pour aller à l'école, pour aller au travail, pour étudier, pour les loisirs. Donc c'est vrai, c'est dans un premier temps, avec la photographie, on considérera comment on peut améliorer l'offre de transport actuelle, et puis ça nous permettra de déterminer les nouveaux axes et les nouveaux équipements que nous devons effectuer pour répondre à ce qui se passera demain. Autrement dit, c'est un instant T, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelles pratiques vous avez, et quelles projections nous pouvons faire sur l'avenir pour répondre à vos besoins.
Alors, les transports, c'est aussi des problèmes environnementaux qui sont toujours associés. Il y a aussi l'intention de pouvoir mener une réflexion plus globale sur l'aménagement durable du territoire.
Oui, alors, c'est vrai que ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'au-delà de la quantification, puisque nous allons interroger 11 000 ménages sur l'ensemble du département. C'est aussi certainement la première fois que dans une étude de transport, nous allons évaluer les impacts environnementaux, puisque dans le diagnostic qui va être fait, l'ADEME, donc, qui est une structure nationale qui permet d'évaluer les consommations énergétiques, sera partie prenante dans cette opération. Donc, autrement dit, on est un peu aussi dans la volonté du département d'être sur ce qu'on peut appeler globalement qu'est-ce que c'est que vont devenir les transports que nous souhaitons durables sur ce territoire, c'est-à-dire durables pour préserver la qualité de vie, l'environnement. Donc il y aura à la fois une étude quantifiée qui nous dira ce qu'il faut faire, mais aussi une étude qui nous montrera combien il faut être économe aujourd'hui en matière de consommation d'énergie sur cette planète. Je suppose, tout à l'heure, vous parliez de mathématiques. Il y a un chiffre qui m'a pas choqué, mais qui m'a interpellé. On considère dans le département, quand on les a quantifiés, puisque vous savez que le département est associé à l'ensemble des communautés d'agglomération du territoire. Autrement dit, on l'a fait à la fois sur le département, mais sur les communautés d'agglo, Béziers, Montpellier, Sète et Agde. Aujourd'hui, on considère à peu près qu'il y a 90 millions de voyages par an sur l'ensemble des transports en commun de notre département. Donc 90 millions, ça veut dire qu'il y a des pratiques donc de déplacement au niveau du transport en commun qui sont importantes. Et c'est vrai aussi que cette étude, elle est pas neutre. On va s'apercevoir inévitablement que nous sommes les uns et les autres un peu captifs de la voiture. Mmh. Et l'idée, c'est aussi, est-ce qu'on peut à un moment donné imaginer se défausser quelque peu de la voiture pour prendre du transport en commun. Donc, autrement dit, il y a aussi c'est plusieurs fers au feu, quoi.
En 2010, selon l'INSEE, il y a 1 44 558 habitants recensés dans l'Hérault. On prévoit qu'il y en ait 1 400 000 en 2030.
En
2030, donc il faudra extrapoler les premiers résultats de cette enquête qui sont attendus pour fin 2014, avec une augmentation conséquente de la population.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, en fonction de ce qu'il se passe sur le territoire, On sait aujourd'hui quels sont les lieux où la croissance démographique est forte. Par exemple, dans notre département, on s'aperçoit que la croissance démographique sur les agglomérations, que ce soit au Montpellier ou Béziers, c'est une croissance démographique qui est parée naturelle. Mais par contre, on a des lieux du département, notamment tout le cœur d'Hérault, tout ce triangle Gignac, Clermont-l'Hérault, Poyan, qui est un territoire en forte croissance démographique. Donc, au-delà de l'étude sur les déplacements, on va savoir effectivement qu'est-ce qu'il se passe sur ce territoire, quels sont les lieux de ce territoire où il va y avoir de la croissance démographique. Je veux dire, c'est pour ça que cette étude, elle sera, enfin, elle est inédite, elle sera particulièrement intéressante, parce que aujourd'hui, faire une route, créer un lieu de transport qui n'existe pas, je veux dire, c'est toute l'anticipation sur ce que sera l'aménagement du territoire de demain, parce que on sait aujourd'hui répondre à du transport en commun sur le territoire. Bon, dans l'urbain, c'est facile, mais dans l'interurbain, c'est-à-dire dans les rediffus, c'est peut-être plus compliqué. Mais on sait aussi qu'il y a des lieux de ce département où les transports en commun ne sont pas particulièrement performants et que les personnes sont toujours captives dans la voiture. Donc c'est vraiment une étude qui sera, je crois, le rendu sera passionnant, parce que à partir d'une photographie, on va se projeter, ce que vous disiez là, sur 30 ans, savoir qu'est-ce qu'il va se passer dans ce département.
Alors on voit bien qu'il y a beaucoup de Montpelliérains qui, pour la qualité de vie qu'on peut y trouver, vivent un petit peu à l'extérieur de la ville. C'est le cas aussi pour d'autres villes du département. Est-ce que les résultats de cette étude pourraient, quand on voit surtout aussi le développement du tramway qui, non content d'irriguer le centre-ville, peut aller jusqu'à la plage ou jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Oui, presque. On va pas faire de digression sur le tronçon manquant. Mais c'est vrai que est-ce que ce type d'étude pourrait amener à envisager d'autres voies ferrées à une échelle plus départementale ?
Oui, ça, je veux dire, c'est aussi ça dans la réflexion, parce que les voies ferrées qui sont quelque peu désaffectées, RFF a abandonné les voies ferrées qui étaient les voies ferrées d'intérêt local sur le territoire diffus. Mais et c'est vrai aussi qu'il existe encore des plateformes de voies ferrées qui sont, pour la plupart, quand elles sont désaffectées, utilisées comme voies vertes avec des circulations piétonnes ou cyclistes. Mais c'est vrai qu'il y a des voies ferrées qui peuvent encore être utilisées. Je pense notamment à toute la réflexion que l'on mène dans le projet Valcordia qui a initié le département, autour de la gare de Poyan. Hein. La gare de Poyan qui était un nœud ferroviaire du croisement des lignes d'intérêt local qui faisait à la fois Béziers-Montpellier et Vias-Bédarieux. Donc c'est vrai que vous avez totalement raison de poser la question de quid des voies ferrées d'intérêt local qui ont disparu. Est-ce qu'on peut imaginer un certain retour aux sources? Je crois que tout ça sera posé. Et l'important, je crois que ce sera de donner quelle réponse allons-nous apporter dans 30 ans au problème du déplacement des gens à partir d'une photographie actuelle aussi. Je veux dire, c'est toute une analyse fine qu'il faudra faire. Hein.
Oui, quand on voit qu'en 2012, par exemple, c'est 6 550 344 voyages qui ont été effectués sur les lignes de bus de l'agglomération Béziers-Méditerranée, une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. On imagine bien aussi que les chiffres des compagnies publiques de transport doivent aussi attester de cette augmentation d'activité.
Bien sûr. Alors c'est vrai que la problématique de l'urbain et de l'interurbain, c'est deux problématiques totalement différentes, mais à un moment donné, quand je me déplace dans l'aire urbaine, ce que vous dites là, avec le tramway, l'aire urbaine peut s'accroître. À un moment, aujourd'hui on est sur une certaine forme d'intermodalité, puisque les quarts des lignes interurbaines s'arrêtent généralement là où commence la ligne de tramway. Avec le même ticket, on peut effectuer deux voyages différents dans deux modes de transport différents. Mais tout ça, c'est au cœur de nos préoccupations, parce que inévitablement, et ça je veux dire, chacun d'entre nous le comprend très bien, dans la mesure où l'ADEME est associé à cette étude, on verra dans quelles conditions on peut faire de l'économie d'énergie, et faire de l'économie d'énergie, inévitablement, ça veut dire transporter les gens en commun plutôt qu'en voiture. L'étude, elle devrait déboucher sur une meilleure performance du transport en commun, qu'il soit urbain ou interurbain, si on veut privilégier notre environnement.
Alors c'est une étude qui, on le disait tout à l'heure, a démarré le 15 octobre, se poursuivra jusqu'au 15 avril 2014, avec un volet grand territoire pour l'aire métropolitaine Montpellier-Rennes et un volet ville moyenne pour le Biterrois et le Nord-Ouest. 11 000 foyers au total répartis sur l'ensemble du territoire départemental seront invités à répondre à une interview en face à face ou par téléphone selon la zone dans laquelle on se trouve, selon une méthode appelée Standard Sertu, qui consiste à sélectionner les foyers de manière aléatoire, c'est bien ça ?
Oui, bah, c'est-à-dire que par rapport au territoire, ce que vous voulez exprimer, sur le Montpellier-Rhin, ce sera une méthode au porte-à-porte, puisque sur le territoire montpelliérain, la population étant plus dense, on peut recenser plus facilement. Et puis sur le reste du territoire, à la fois sur l'ouest et puis sur le secteur Lodève-Clermont, on sera sur une réflexion téléphonique. Et donc on est sur une étude standard du CERTU. Bon, le CERTU, c'est un organisme reconnu par tous. Nous savons effectivement les uns et les autres ce que représente le CERTU. Le sérieux, la garantie, la confidentialité. Donc il fallait effectivement, pour que nous soyons crédibles et que les résultats soient des résultats, bien sûr, qui n'amènent aucun reproche, on le fasse faire par quelqu'un qui est reconnu au niveau national.
Donc les premiers résultats seront donnés fin 2014. On sera à l'écoute de l'évolution en souhaitant que cette étude...
Nous aussi, le département, parce qu'il y a certes le problème des transports en commun, mais il y a pour nous aussi le problème des équipements et des dessertes routières. Hein. Quid de cette route? Est-ce qu'il faudra la doubler? Est-ce que c'est plutôt sur ce territoire qu'il faudra faire un effort? Je veux dire, quand on regarde des choses simples, sur le Montpellier par exemple, on s'aperçoit que la route Moggio-Aéroport est une route à forte densification. Le département est en train de réfléchir au fameux lien, au contournement est de Montpellier pour brancher directement du secteur Vandargue sur le secteur Gignac-Clermont-Léraud. Donc c'est vrai que cette étude de déplacement, et c'est vrai qu'il y a le déplacement, je suppose que dans l'étude, dans la mesure où on interrogera les gens pour leur dire qu'est-ce que vous avez fait hier en matière de déplacement, on s'apercevra que le déplacement de travail est important, on s'apercevra que le déplacement scolaire est important. Et tout ça nous fera voir aussi sur le plan économique pourquoi les gens se déplacent. Est-ce qu'au lieu de faire déplacer les gens, il n'est pas possible de déplacer de l'activité? C'est un peu la réflexion qu'a le département aujourd'hui avec sa politique d'éco-parc. Donc l'éco-parc de Saint-Honnès-et-Thum, il existe depuis quelque temps. On est en train de réfléchir à créer donc un éco-parc sur Bel Air, un autre sur le territoire Gignac-Saint-André, c'est-à-dire sur des territoires où on sent que la population, ce que vous disiez au départ, on sent que la population de Montpellier est en train de quelque peu s'expatrier. Si elle s'expatrie, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de lui retrouver de l'activité? Je veux dire, ça aussi, c'est une façon de réduire le problème des déplacements. Et essayer de coller avec les territoires et de faire qu'à un moment donné, à la fois par rapport à une famille, si le père ou la mère travaille sur place, le fils peut étudier au collège qui est sur place, on économise de longs déplacements vers la capitale montpelliéraine, ou Biterroise, ou Sétroise. Il y a aussi ça, tout ça. C'est vrai que c'est une étude qui, au début, peut paraître anodine, si ce n'est son caractère inédit, mais les conclusions, elles vont nous permettre de prendre politiquement des décisions sur l'aménagement de ce territoire qui me paraissent capitales. Le déplacement, c'est au cœur de nos problématiques journalières. Je dis autant bien vous que nous, que nos auditeurs, ils montent dans une voiture ou ils montent dans un transport en commun pour aller tous les jours se rendre quelque part.
Voilà, sur les quelques 5000 km de route que compte le département, on va souhaiter un bon travail aux 125 enquêteurs qui ont été recrutés dans le département, majoritairement des étudiants ou des personnes en recherche d'emploi, ce qui allie l'utile à l'utile. Et on se tiendra au courant des résultats. Donc,
je suppose qu'il y aura peut-être un rapport d'étape, et si un rapport d'étape, on pourra effectivement convenir d'en reparler.
Très bien, Pierre Guiraud, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil général délégué à l'aménagement et à l'économie des territoires. Merci pour ces quelques minutes d'interview.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Whoa!
special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, out in the rain and snow, I didn't have no payroll, not even no place to go. You know, my dear mama left me when I was quite young.
Bien bel hommage que cet extrait de Cool Tributes numéro 2, c'était Slack Wax on the Road Again. Comme annoncé au sommaire, nous sommes à présent en compagnie de Pierre Buisson. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut parler très près du micro. On vous reçoit en tant que membre de l'association Les Vrais Amis du Père Prévost, qui est une association née de la volonté d'habitants du quartier des Beaux-Arts de conserver le stade dit du Père Prévost, qui se trouve rue Beau Séjour à Montpellier, menacé de disparition par un projet immobilier de 280 logements. Un bras de fer s'est engagé entre les habitants et les promoteurs de ce projet immobilier. On vous reçoit pour faire un petit point pour cette histoire qui date pas d'hier, puisque je crois que c'est en 2011 que vous aviez commencé à alerter la municipalité sur la fin en fait du bail qui liait le propriétaire du terrain et la ville.
Oui, effectivement, c'est en fin de l'année 2011 où on a su par la presse qu'il y avait un projet immobilier et donc qui supprimait le stade. Et c'est un stade très important du quartier, hein, qui a certainement presque un siècle d'existence et donc qui servait énormément aux habitants du quartier, aux clubs sportifs, au stade Lunaré par exemple, mais aussi toutes les écoles, tous les collèges y venaient jouer, et puis même les clubs de football venaient y faire des matchs, puisqu'initialement cet ensemble, donc ce plateau sportif, comme on pourrait dire, comprenait deux stades, une piste d'athlétisme et des stades de volley, hand, etc. Voilà. Mmh. Et c'est suite au passage de la ligne de tramway, ce que nous avons dénoncé à l'époque, que finalement le terrain qui était non constructible, puisque c'était un terrain sportif, est devenu constructible donc, par la volonté municipale, puisqu'elle avait négocié donc, le passage du tramway comme contre la transformation du non constructible en constructible. Voilà. Mmh. Et donc ça date de 2002, et c'est en 2011 qu'effectivement le propriétaire du terrain donc, a décidé effectivement un projet immobilier de 280 logements, donc il va effectivement supprimer totalement les activités sportives de ce stade et du quartier.
Voilà. Au-delà des activités sportives, ce qui est souligné notamment par une lettre ouverte de Jean-Claude Michéa qu'on peut retrouver sur le blog des Amis du Père Prévost, c'était aussi un lieu de mélange, d'insertion, de mixité, et ça, c'est au moins aussi important que l'aspect sportif de la chose.
Bien entendu, dans le quartier, il n'existe pas de places importantes, de lieux importants, etc., pour pouvoir recevoir des groupes, des jeunes et des moins jeunes, etc. Et c'est vrai que le stade, c'était un bon lieu pour recevoir, donc, en dehors des moments scolaires, par exemple, les jeunes du quartier, mais aussi leurs familles, puisque, effectivement, ce stade servait effectivement aux activités sportives, mais aussi aux activités de loisirs. En fait, on voyait plein de personnes qui faisaient des footings, et puis il y avait des gens qui s'y réunissaient effectivement pour venir surveiller leurs enfants, etc. Et donc, effectivement, c'était un lieu très, très important du quartier, surtout que beaucoup de familles du quartier y ont joué. Voilà, et donc, effectivement, c'était aussi un lieu de mémoire, finalement, de l'activité sportive et de loisirs du quartier.
Alors, est-ce que la situation est actuellement bloquée, puisque l'adjoint à l'urbanisme, Michel Delafosse, disait que c'est une affaire de droit privé, donc on n'est pas concerné, ce que vous dénoncez quelque part?
Alors, effectivement, on peut, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une affaire de droit privé sur laquelle on n'a rien à dire en propriétaire, jusqu'à preuve du contraire, donc, et propriétaire de son terrain, il fait ce qu'il en veut. Seulement, c'est quand même la ville qui organise l'urbanisme à Montpellier. C'est la ville qui donne les permis de construire, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, nous, ce que nous aurions souhaité, c'est que si on peut retenir qu'il y a besoin de logements à Montpellier, sur lequel on peut être d'accord, il aurait été intéressant, effectivement, que la ville, qui est quand même la puissance publique sur cette affaire-là, puisse faire une véritable concertation en disant, ben voilà, il y a un projet d'un promoteur privé, on a besoin de construire des logements pour loger la population, on aurait pu en discuter. Mmh. Surtout que dans le quartier, il existe d'autres endroits où on peut construire du logement. Donc, ça ne peut pas être ça qui a été le blocage. Mais la ville, en fait, comme elle fait habituellement depuis des années, c'est-à-dire qu'elle ne suscite pas la concertation. Alors que nous, on a à plusieurs reprises émis un certain nombre de propositions qu'on a transmises de vive voix par courrier à la mairie. Et ces propositions sont restées totalement lettres mortes. Mmh. À tel point qu'on se demandait effectivement s'ils recevaient nos courriers et si l'adjoint à l'urbanisme recevait nos courriers. Voilà. Donc nous, on n'est pas contre les logements. D'ailleurs, lors de la négociation du changement de statut de ce terrain en terrain non constructible, en terrain constructible, il était prévu des constructions. Nous avions, notamment sur une partie du stade, puisqu'il y avait deux stades, on gardait un stade et l'autre partie était devenue un terrain vague. Donc, on avait accepté l'idée qu'on pouvait construire des logements sur cette partie-là. De là à couvrir l'ensemble du terrain de sport de logement, peut-être il y a une dimension peut-être trop importante, etc. Mmh. D'autant plus que dans le projet qui nous a été présenté, aucune place supplémentaire dans les écoles n'a été ouverte. Donc soit les promoteurs vont sélectionner les habitants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Rien n'a été discuté sur justement les problèmes de stationnement, de circulation dans le quartier qui est déjà très très encombré, puisque justement dans le cadre des discussions sur le plan de circulation et de déplacement, nous avons mis déjà en exergue un certain nombre de difficultés. En plus, le terrain du Père Prévost était un bassin de rétention pour le déportement de la petite rivière qui traverse le quartier, qui s'appelle le Chambéry. D'ailleurs, on a des photos où on voit qu'effectivement le stade sert de bassin de rétention puisqu'il est complètement inondé. Voilà. Mmh. Toutes ces questions-là sur lesquelles on a, et bien d'autres, on avait posé des questions à la municipalité, nous n'avons aucune réponse. Mmh. Ce que je voudrais dire, c'est que on n'a rien contre le promoteur, nous n'avons rien contre le propriétaire, mais par contre, on trouve que la municipalité, c'est pour ça qu'on en fait un enjeu public, aurait pu effectivement élaborer avec le promoteur et avec le propriétaire effectivement un projet plus respectueux des besoins du quartier. Mmh. Voilà, c'est là-dessus. On avait quand même proposé à la mairie, comme elle l'a fait à d'autres endroits à Montpellier, par exemple, d'acheter le terrain. De le rendre, donc, de le soustraire à la promotion.
De le préempter, oui.
Voilà. Mmh. Et le problème, c'est que ces propositions-là sont restées à la vie. On voit qu'elles viennent de le faire pour elles l'avaient fait pour le parc Clémenceau. Elle a acheté le parc Montcalm. Elle est intervenue pour qu'effectivement une partie du jardin de la Reine ne soit pas soumise à la promotion immobilière, etc. Dans le quartier, elle vient d'acheter l'espace des archives départementales qui sont parties, etc. Donc, la ville, elle peut avoir une politique de type urbanisme et de construction maîtrisée lorsqu'elle le veut. Mais là, effectivement, on n'a jamais pu en discuter.
Mmh. Alors, il nous reste très, très peu de temps. Est-ce qu'il y a des échéances? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous avez un rendez-vous, peut-être, avec la ville?
Alors, nous avons un rendez-vous le 15 novembre, voilà, où est censé nous être présenté le nouveau projet. Enfin, on espère un nouveau projet. En tout cas, nous avons accepté d'assister à cette réunion que dans la mesure où on dit rediscuter du projet. Nous n'y allons pas et nous partirons de cette réunion si simplement on discute de la couleur des volets ou de la couleur des balustrades.
Pierre Buisson, merci. Ce sera l'occasion de vous recevoir pour faire un point sur cette situation. Merci d'être venu dans les studios de Divergence.
Merci à vous.
Ce soir à l'Opéra Comédie de Montpellier, un concert exceptionnel de Avi Avital, un virtuose de la mandoline, qui sera le concert d'ouverture, un concert soirée classique première partie de la 10e édition des mandolines de Lunel, festival international. Et c'est Olivier Chabrol qui est avec nous au téléphone pour évoquer ce 10e anniversaire. Alors d'abord, bon anniversaire.
Merci de vous intéresser à notre manifestation.
Alors une manifestation qui, depuis 10 ans, s'est développée, a réussi à réunir autour d'elle des virtuoses de cet instrument, dont chaque fois qu'on se rencontre ou qu'on s'est au téléphone pour évoquer ce festival, on revient à chaque fois sur un petit peu l'histoire de cet instrument qui, à un moment donné, a été délaissé, qui a retrouvé des lettres d'or dans les années 70 grâce aux parrains de cette 10e édition. On va y revenir. Et qui aujourd'hui, trouve sa place.
Ben oui, mais on est content, nous, d'avoir œuvré dans ce sens. La mandoline avait un peu disparu de l'époque, et puis je me suis aperçu moi-même, en tant que musicien, compositeur, que c'était un instrument intéressant, passionnant, qu'on pouvait intégrer à des musiques de notre temps, dans des formations où elle est... J'allais dire où elle combat avec des cuivres, avec des vraies rythmiques, où elle peut être électrifiée, où elle aussi représente, en dehors de l'Europe, des cultures, des musiques qui l'ont intégrée dans différentes histoires de la musique et des cultures dans les pays étrangers, sur d'autres continents. Et c'est ça qu'on présente ici au festival depuis une dizaine d'années. Et on y fait aussi beaucoup de créations, au pluriel. Notamment, comme vous l'avez dit en introduction, on demande à des compositeurs et à des instrumentistes, des virtuoses, de créer des nouveaux concertos pour mandoline et orchestre. Et on a la chance d'être en complicité avec l'Orchestre National de Montpellier et Languedoc-Roussillon, donc depuis 4 ans. Et c'est vrai que ce soir, c'est une première, c'est une ouverture du festival hors les murs de Lunel, mais bien sous le nom du Festival International de Mandoline de Lunel, que le concert va être à l'Opéra Comédie, avec, vous avez dit, Avi Avital qui fait une première partie classique, avec Bach, Tsintsaz et un certain nombre de choses qu'il a enregistrées avec d'autres gramophones. Le premier mandoliniste de l'histoire à enregistrer et à être en contrat d'exclusivité avec une telle compagnie légendaire. Mais vous avez oublié de citer aussi qu'il y avait une création avec Hamilton de Hollande, qui est aussi un autre parrain depuis 2008 du festival. Une création de Caprice qu'il a fait, Caprichos, que je prononce mal en brésilien, pour mandoline et orchestre.
Un festival qui s'ouvre ce soir donc avec ce soliste qui a reçu le Grammy Award du meilleur soliste instrumental avec orchestre, c'était en décembre 2010, pour une interprétation du concerto pour mandoline d'Avner Dorman. Un concert très prestigieux, j'imagine que ça risque d'être un petit peu complet.
On l'espère, c'est l'Opéra Comédie et l'Orchestre qui s'occupe de la billetterie. Je pense qu'il y a des réservations et que c'est bien pour ceux qui veulent y être de tenter encore des places. Avia Vital est un de ces jeunes virtuoses classiques absolument épatants parce qu'effectivement, dans le monde de la musique classique, qui est toujours resté un petit peu désuet quand on pense à la mandoline, peu de grands compositeurs comme, bon, Beethoven a fait quelques petites choses, Mozart a fait la scène du balcon dans son Don Juan, etc., où la mandoline s'investit, mais c'est souvent des emplois de la mandoline très à la marge dans nos grands compositeurs européens. Donc, lui, Avi a créé ce concerto à la fin 2010 à New York. Il a joué en exclusivité mondiale, hors les États-Unis, je dirais, au festival dès l'année suivante. Et en sortant du festival, c'est là qu'il a été remarqué par Deutsche Grammophon, donc la grande compagnie légendaire par qui tout est passé, et l'avènement mondial de la grande musique classique d'après-guerre. Hein. On pense à Karajan, on pense à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, tout a été enregistré là-bas. Et pour la première fois, un mandoliniste a été engagé en exclusivité. Et aussi, vous avez cité qu'il avait reçu un prix d'interprétation, c'est tous instruments confondus, c'est-à-dire que c'est pas entre les mandolinistes, c'est en face des pianistes, en face des violonistes, etc. Donc c'est vraiment formidable. Et on a aussi, tout de suite après lui, en création mondiale, donc une série de caprices qu'a écrite Hamilton de Hollanda, qui va être interprétée donc en mandoline et orchestre avec l'Orchestre Symphonique de Montpellier, qui est aussi une pièce tout à fait pas ordinaire là en tant que composition. Et Hamilton est actuellement le grand, nous on l'appelle le prince du mandoline. Le mandoline, c'est la mandoline façon brésilienne, qui est un virtuose actuel qui se fait connaître maintenant autant par des interprétations avec des orchestres classiques que la musique de Choreau modernisée telle qu'il a commencé à la lancer à travers le monde.
Il y a un autre fidèle du festival depuis le début, on va y revenir pour ce qui concerne Hamilton de Hollanda. Il a joué justement avec John Paul Jones ou Mike Marshall, qui là aussi on est dans les habitués du festival.
Oui, alors vous venez de citer, je ne sais pas si c'est exprès, je vous soupçonne que oui, les trois parrains du festival. C'est-à-dire voilà. Que le festival a commencé en 2004. Dès 2006, on a couronné Mike Marshall comme premier parrain du festival. On fait notre petite cérémonie. On va la faire pour John Paul Jones au cocktail d'ouverture le mercredi 30 octobre à Lunel. On l'a fait 2008. On a couronné parrain ensuite Hamilton. Et cette année, donc, longtemps après, on remet en scène cette petite cérémonie pour John Paul Jones. Ils se sont rencontrés de quelle manière ? C'est Mike Marshall qui, lui, pour la première fois, m'avait demandé si on pouvait inviter John Paul Jones au festival, qui est venu les premières années vraiment incognito. Et c'est un type absolument épatant, à part que c'est un musicien légendaire, pour avoir avec donc Jimmy Page co-créé Led Zeppelin. C'était même avant Led Zeppelin déjà un grand arrangeur de studio. Il avait travaillé pour beaucoup de formations connues. Hein. Il a écrit des arrangements pour les Rolling Stones notamment, mais pour beaucoup de vedettes de la pop de l'époque en Angleterre et aux États-Unis. Et depuis que Led Zeppelin s'est arrêté, hein, qui a donc été ce groupe hyper célèbre, légendaire, lui a continué une activité absolument incroyable. Bon, il travaille avec Merce Cunningham pour créer des musiques, vous voyez, dans le domaine de la danse. Il écrit actuellement un opéra. Il a fait un groupe de super hard rock qui, pendant 2 ans, a fait salle comble dans toutes les salles de la planète. Il y a 2 ans de ça, il y a encore, oui. Et c'est bon, le spectacle qu'il va faire, par exemple, à Lunel, c'est avec une mandoline 3 manches qu'on ne voit nulle part ailleurs que accrochée à son cou, vu que c'est un instrument qu'il a fait construire pour lui. Et ça, déjà, c'est absolument remarquable et étonnant et surprenant, qu'on peut le voir d'ailleurs sur l'affiche. Mais en plus, cet instrument, il le joue seul, avec un ordinateur, des appareils pour faire des boucles. Il est toujours la pointe de ce qui est très moderne, en même temps que c'est un personnage qui a tout vécu, tout fait et qui continue actuellement. Donc on est très très heureux de l'avoir comme parrain. Inutile de dire qu'un bonhomme comme ça, s'il n'avait pas jeté son dévolu par amour de la mandoline, parce qu'il en joue lui-même au festival, ce serait impossible de l'engager comme une star. Donc c'est une bénédiction pour nous d'avoir un bonhomme comme ça qui prête son nom au festival, qui veut bien être sur l'affiche, qui très officiellement invite tout le monde à venir ici et se laisse couronner comme un enfant parrain de notre petite affaire.
Ça, ce sera le concert de clôture le samedi 2 novembre. Plus proche de nous dans le temps, c'est à partir de demain, mercredi 30, que tout va se passer donc à la salle Georges Brassens à Lunel. Retour au Bercail.
Absolument, très bien dit. On rentre de la capitale pour revenir au village. Donc, on est à Lunel. On a le concert cabaret qu'on a commencé depuis l'année dernière où, au lieu d'avoir des chaises, on a des rangs de fauteuils dans la salle. Ce sont des tables. C'est une ambiance tout à fait extraordinaire. On a essayé ça l'année dernière, ça a bien marché. Et on continue maintenant. Et donc, par contre, sur la scène, c'est toujours les grands spectacles et la grosse programmation qu'on a l'habitude de donner au festival. On a Thiago Tunes, qui est un jeune virtuose brésilien, qui joue le choro à la manière d'Hamilton, mais qui est un gars de 16 ans et demi, qui va être, lui, le seul peut-être tout nouveau au festival. Il sera accompagné par Rogério Caetano, qui est un des deux maîtres incontestés et très actif, très dynamique de la guitare 7 cordes au Brésil, qui est cette guitare particulière, qui a une forme classique, mais qui ajoute une 7e corde dans le grave. Donc il y a des possibilités d'accompagnement, d'harmonie, de rythme absolument étonnantes. Et on a ensuite Jack Joliffe et Alex Hargreaves, qui sont deux jeunes musiciens de ce qu'on appelle le Newgrass, la suite du Bluegrass aux États-Unis, c'est-à-dire la façon modernisée de jouer leur musique de racines américaines, souvent acoustique. Jack Joliffe, lui, joue la mandoline, Alex Hargreaves joue un duo, et ils seront accompagnés en partie dans leur spectacle, dans leur show, par Michel Benita à la contrebasse, et Sébastien Rochefort, qui nous vient d'Angleterre, à la batterie.
Les festivités, le pot d'ouverture, ce sera à 18h45 si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
Voilà, donc ça se passe toujours à l'espace Louis Feuillade pour les rendez-vous apéro qui se déroulent tous les jours.
Tous les jours, dans un bar différent, on a à 18h45, donc à l'heure de l'apéro. Quand on dit rendez-vous apéro, c'est pas rendez-vous pour boire quoi qu'on puisse boire sur place, évidemment, mais c'est parce que ce sont des petits concerts libres avec des groupes tout à fait intéressants, dont certains mériteraient pareillement d'être sur la grande scène, mais qu'on offre là au public sur des petites scènes, donc improvisées dans des bars à Lunel. Donc ça change chaque soir. Et c'est un groupe différent, et c'est très populaire depuis le début au festival, c'est pour ça qu'on les met dans la programmation au même titre que la grande scène. On a d'ailleurs, donc mercredi, le rendez-vous apéro, c'est le cocktail d'ouverture, en même temps qu'on fait tous un petit discours d'ouverture, il y a des musiciens du festival, de l'édition, qui joue quelques morceaux devant le public. Ensuite, les vrais rendez-vous apéro sont plutôt dans les bistrots. On aura Jamel Djenidi.
Voilà, le jeudi 31.
À 45, le jeudi. Alors, Jamel, c'est un Algérien qui vit à Montpellier depuis toujours, je dirais. Depuis
donc un local.
Moi, je connais Montpellier, j'ai toujours vu. C'est un garçon tout à fait épatant. C'est un lettré, un musicien, multi-instrumentiste, chanteur. Et depuis 2 ou 3 ans, Il a fait beaucoup de musique latine, dont il est un spécialiste. Il connaît très bien Chabi par ses racines. Mmh. Et il adapte des chansons de Brassens depuis 2 ou 3 ans avec bonheur, qui lui ont valu des concerts en Espagne, à l'UNESCO, à Paris, etc. Où il les adapte dans la musique traditionnelle Chabi, où il traduit des textes en langue dialectale algérienne. En même temps, il est dit en français, il fait un espèce d'échange et il a un goût, une grâce particulière dans la façon d'y faire ça. On traverse les cultures avec un auteur français et il le fait de façon merveilleuse.
Alors ensuite, à la salle Georges Brassens, ce sera le Cesardo Trio qui a été créé en 2010, qui avait quasiment volé la vedette ce soir-là au groupe américain qui était programmé.
Voilà, oui, c'est une expérience assez étonnante. Moi, j'avais entendu ce garçon et la façon dont il crée un univers m'a accroché mes oreilles. Et je lui avais demandé en 2010 donc de venir faire un trio, une création totale. Et on l'avait mis donc en première partie du grand groupe new-yorkais Solas, qui est réputé dans le monde entier, en tout cas par les connaisseurs de la musique américano-irlandaise, etc. C'est un groupe phare qui tourne beaucoup. Et il avait dit cette phrase qui est restée célèbre. Il s'est approché du micro au public, il a dit « Je vous remercie d'être venu pour la deuxième partie ». Voilà ce qu'il a dit en introduction, il n'a rien dit d'autre. Tout le monde s'est assez rigolé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fait un concert qui a étonné tout le monde d'authenticité, d'intégrité, de surprise, avec une mandoline acoustique et une rythmique. Et je me suis dit qu'on avait affaire là vraiment à un créateur intéressant pour cet instrument. Et donc Cesardo, Stéphane César de son nom, revient avec un nouveau trio, un peu différent, et pour une nouvelle création dont on attend beaucoup évidemment. Ewan Shields et Ruby, sa jeune fille, vient en fait en trio et le groupe est complètement familial puisqu'il y a maman qui est là aussi, Tracy, ils vont jouer à trois. Lui, c'est vraiment un déjanté, un déluré, un personnage burlesque qui était un monstre sur la scène, qui vraiment prend le public et l'emmène un peu partout, qui agite toutes sortes de mandolines, qui chante donc en anglais, et qui a une personnalité aussi complètement inattendue. Je ne veux pas décliner tout ce qu'a fait ce garçon, mais dans la scène alternative, anglo-française, il a sa réputation, et c'est vraiment... encore un de ses créateurs, dont le centre de départ de tout ce qu'il fait est la mandoline. Féloche, bon, est venu ici il y a, je crois, 3 ans avec un premier spectacle. C'était un artiste français qui était découvert au moment où il est venu ici. Et il a fait une tournée absolument étonnante pendant 1 an et demi. Il a été dans toutes les radios, etc. Et puis, après, bon, ben, il a eu sans doute la surprise d'un succès comme ça inattendu, mais complet, fourni et qui a épuisé sa vie sur 1 an et demi. Et après, il a mis un petit peu de temps, comme souvent les artistes intègres qui essayent de pas profiter des situations, mais de créer quelque chose d'intéressant, à préparer l'éventualité, le projet d'un deuxième album, deuxième tournée. Et enfin, ça arrive. Son album sort en ce moment, tout à fait juste avant le festival, et on va avoir la primeur de son deuxième spectacle, deuxième album, car il vient l'essayer chez nous avant de partir en France pour faire une nouvelle tournée. On l'entend en ce moment sur toutes les radios, on le voit dans tous les journaux. C'est un type épatant, il a une fraîcheur, un enthousiasme, il occupe la scène de manière merveilleuse. Il est à la fois burlesque, pas burlesque, non, poétique, inattendu. Moi, je dis que c'est le nouveau Charles Trenet, le fou chantant de la mandoline, je l'appelle, puisque lui, pareil, c'est une mandoline qu'il a accrochée au cou, et non pas, comme souvent tous les auteurs-compositeurs, une guitare. Donc tout part de la mandoline, et tout son univers, qui est très authentique, très original, part de cette mandoline, ce qui donc intéresse notre festival monomaniaque, je dirais.
Ce vendredi, le rendez-vous apéro se passera au bar Le Roi Fainéant, à Lunel bien évidemment. Et ce sont des Napolitains avec le trio Guaracino, donc ça fait pas mal de trios qui seront présents pour toujours, on le précise pour ceux qui prennent l'écoute tout de suite, pour cette 10e édition du Festival International des Mandolines de Lunel.
Le trio Guaracino, c'est un guitariste chanteur qui a vraiment le timbre de voix particulier, la langue particulière et le répertoire original de la musique napolitaine qui a rendu célèbre la mandoline. Et là, on va avoir vraiment une vraie version authentique de ce que c'est et non pas, je dirais, pour dire vite et méchant, la version pizzeria, si vous voulez. C'est vraiment un très très beau trio. Surtout que le mandoliniste de l'affaire, c'est Fabio Gallucci, qui lui est un virtuose classique, hein, qui joue depuis qu'il est arrivé dans la région. Hein, il est venu habiter à Lunel, c'est un vrai napolitain. Il joue souvent maintenant avec l'orchestre symphonique de Montpellier. Quand ils ont besoin d'un mandoliniste, ils le prennent. Il joue aux États-Unis, il joue en Europe. C'est un concertiste qui vient aussi donner des cours et faire de la pédagogie dans notre région. Mais c'est absolument un très très grand musicien, et lui, quand il s'agit de mandoline napolitaine, il sait de quoi il parle, évidemment. Et je leur ai demandé de jouer en trio pour occuper la scène et donner du son avec un sous-bassophone, en fait un tubiste. Et ce tubiste est un musicien de Montpellier, enseignant au conservatoire et virtuose lui-même. Et donc ça va donner un concert absolument sympa et nouveau. Hein, ils sont en train de répéter actuellement et je suis très très curieux d'aller les voir moi-même.
À ne pas rater, et puis ce vendredi à ne pas rater, ce sera une soirée en deux parties avec l'Arte Mandoline Baroque Ensemble. Et puis en seconde partie, la création mondiale Caprice avec l'Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon et Hamilton des Hollanda.
Voilà, en fait, ce que nous avons créé à l'Opéra Comédie revient se jouer dans nos murs, mais la première partie est différente et le cadre très différent, bien sûr. La première partie, donc, il s'agit d'Arte Mandoline Baroque Ensemble. C'est un groupe qui est surprenant de la manière suivante. Il joue de la musique baroque, strictement transcrite, réétudiée. Ce sont des archivistes, des historiens, des textes d'origine, donc du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et il joue des instruments anciens, c'est-à-dire soit vraiment d'époque, donc assez vieux et entretenu, soit refait à la manière de l'époque par des luthiers modernes. Donc quand on dit ça, on se dit que de quoi s'agit-il ? Ça va être de la musique baroque, comme on la connaît, rythmée et désuète du fond des temps d'il y a trois siècles. Et en vérité, quand on découvre ce groupe, c'est là qu'est la surprise, c'est que c'est un groupe qui a une limpidité, une force de son, un rythme, des contrastes, une vivacité et une puissance de jeu sur scène qui est, où on oublie complètement les siècles, on oublie complètement qu'il s'agit de musique baroque. Ils vraiment transcendent les auteurs qu'ils interprètent et ça pourrait être vraiment de la musique de maintenant et la façon de jouer, ça pourrait être tout à fait un groupe de maintenant, d'ailleurs ça l'est évidemment, mais ça pourrait être, vous voyez ce que je veux dire, un quintet de jazz ou du rock, ou alors ils font pas du rock ou du jazz, hein, qu'on se méprenne pas, mais le son, la présence, la modernité, le mordant de leur jeu est tout à fait épatant, ils sont vraiment des virtuoses.
Montpellierains aussi peut-être pourront être drainés vers Lunel suite
pour la deuxième version pour la du concert qu'on aura donné à l'Opéra Comédie.
Absolument oui.
Bien sûr. La vérité est la suivante, c'est que c'est une expérience tout à fait pas ordinaire que seul un artiste comme Hamilton peut réaliser. Il va jouer en fait à l'Opéra Comédie une première fois, ça va être une première ambiance. Ensuite, il rejoue ici dans l'univers connu, le public de Lunel sur la scène de Lunel. Ce sera la deuxième fois, puisque c'était une création. Hein. Mais encore, le lendemain samedi, il le jouera en trio, c'est-à-dire dans une version avec contrebasse et percussionniste, une version plus populaire à la façon brésilienne, d'où il tire au départ ses caprices, qu'il a composé, dit-il, dans l'esprit à la fois des suites de Bach et de la virtuosité de Paganini. Donc c'est une espèce, ce sont des pièces très très particulières qu'il a créées, qui va jouer d'une certaine manière dans trois versions différentes, dont deux sera avec l'orchestre, et ce sera le samedi qu'il la fera en trio.
Un trio complété de Thiago da Serigna et aux percussions et André Vasconcelos à la contrebasse. Le samedi qui sera le jour où on retrouvera à Via Vital le trio, donc après le concert qui aura été donné le mardi 29 ce soir. Et donc il sera là pour le samedi 2 novembre à la salle Georges Brassens à Lunel.
Ce qui est intéressant, pareil, Avi, le premier disque qu'il a fait, c'est sur des œuvres de Bach. C'est ça qu'il va interpréter avec l'orchestre de Montpellier à l'Opéra Comédie. Et en revanche, quand il va venir le samedi à Lunel, ce sera un trio qu'il va faire, un peu la matière d'Hamilton, mais là sur un autre répertoire, parce qu'il a un disque à sortir début janvier, son deuxième chez Deutsche Grammophon, où il réunit des pièces qu'il a transcrites pour mandoline, ou certaines ont déjà été écrites pour mandoline, mais la plupart sont transcrites, d'autres de grands compositeurs classiques qui ont écrit en s'inspirant des œuvres en s'inspirant des racines folkloriques, culturelles, populaires de leur pays. Mmh. Donc on va trouver un répertoire tout à fait nouveau qu'il va roder et commencer à jouer encore au festival. Et là, je souligne quelque chose qui est important pour nous, c'est que on s'aperçoit, par exemple, avec Féloche, on s'aperçoit donc avec Avia Vital, que des compagnies de disques maintenant qui s'intéressent à la mandoline sont heureux de pouvoir faire correspondre la sortie de leur album avec la présence de leur artiste au festival. Pour nous, c'est quand ça commence à être une reconnaissance de fait, hein, artistique et structurelle, qui est importante. On a une sorte de petit partenariat cette année, notamment justement avec Deutsche Grammophon.
Voilà, des pièces de Manuel de Falla, Nikolaï Boudachkin, Ernest Bloch, Astor Piazzolla, Béla Bartok ou autres. Et puis, tout seigneur, tout honneur, la boucle se boucle une troisième fois avec John Paul Jones, donc, qui jouera ce samedi 2, dernier soir du festival. L'immense John Paul Jones, faut-il le rappeler, mandoliniste et cofondateur de Led Zeppelin, mais qui a aussi joué avec R.E.M., Brian Eno, Peter Gabriel ou d'autres, et qui, comme on l'évoquait tout à l'heure, est un hyper actif qui tire sur tous les fronts.
Absolument, c'est un personnage étonnant. C'est un grand compositeur, musicien de fond depuis toujours, qui continue maintenant. Hein, il a plus de 70 ans et pourtant c'est un des musiciens les plus actifs de la planète. Et je préviens autant que je peux tout le monde parce que comme sa légende s'est faite d'un point de vue public sur Led Zeppelin, tout le monde se dit « Ah, il y a John Paul Jones, il y a Led Zeppelin ». Non, il n'y a pas Led Zeppelin, il y a John Paul Jones. Et donc, ça va pas être un concert de hard rock, même hard rock sophistiqué comme le faisait Led Zepp. Ça va être lui en solo pendant 40 minutes avec cette mandoline qu'on peut voir sur la fiche de l'édition, à trois manches, en face d'un ordinateur qu'il pilote et avec donc des espèces de boucles par-dessus lesquelles il joue, il ajoute, il crée des contrastes et des compositions à lui. Donc c'est un spectacle pas ordinaire, unique au monde au sens que c'est lui et au sens que c'est cette mandoline à trois manches et au sens que cette mandoline elle est en face de boucles d'ordinateur. Et donc c'est absolument formidable pour nous qui prétendons à montrer que la mandoline peut jouer toutes sortes de situations et même est très créatrice, très créative pour la musique de notre temps. Il en est un exemple formidable, en même temps que légendaire, il est tout à fait moderne et tout à fait à la page de tout ce qui peut se faire de nouveau maintenant pour la musique et pour la mandoline notamment.
Voilà, en termes d'hyperactivité, aux côtés de ce duo de bruit d'ordinateur, entre guillemets, il écrit actuellement un opéra à partir de The Ghost Sonata de Strindberg, et puis le groupe d'improvisation norvégien Super Silent, et occasionnellement sur les tournées de Sizzix Steve, qu'on diffuse pas mal sur Divergence, toujours très actif à 70 printemps, tout juste.
Et un bonhomme d'une gentillesse, d'une modestie tout à fait étonnante, hein, quand on l'image des grands artistes ou des génies, elle est souvent controversée, mais il y en a parmi eux qui sont des gens qui essayent pas de parler plus fort que les autres ou de montrer leur mèche ou que sais-je ou leur belle chemise, et qui sont souvent des gens John Paul depuis le début, ben, il vient, il se met dans le rang des stagiaires, il va au masterclass, il joue, il sort la basse acoustique sur un rendez-vous apéro sur une terrasse de bistrot, et j'ai protégé ça à travers les années quand il était là pour être sûr de pas changer cette espèce de connivence et de tranquillité qu'il avait à venir ici où il n'était pas assailli. Et là, il nous fait l'honneur de bien vouloir ouvrir son image officielle dans le cadre de cette édition. Et donc, c'est un grand cadeau pour nous, bien sûr. Hein, et je lui en suis très, très reconnaissant, évidemment.
Voilà, en parlant de masterclass, on précise qu'elles auront lieu les 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, avec Avia Vital, Jack Joliffe, Alex Graves, le Art et Mandoline Baroque Ensemble, Feloche, John Paul Jones lui-même, et puis aussi Thiago Tunes et Rogerio Caetano. On retrouve toutes ces informations sur mandoline2lunel.com. Et puis on précise aussi que les tarifs vont de 8 à 19 euros et que évidemment toutes sortes d'abonnements dégressifs sont proposés. On va vous souhaiter une brillante 10e édition du Festival International des Mandolines de Lunel, on l'a vu, une programmation digne de célébrer ces 10 années.
Bien sûr. sûr, on espère, nous, faire une grande fête, hein, c'est le but. Encore une fois, c'est beaucoup d'artistes que le public a élus, hein, à travers les éditions et qu'on essaie de faire revenir pour faire plaisir à tout le monde, au public, aux artistes, aux médias. Et bon, on est des fidèles aussi, hein, de Divergence FM et on est contents, on les remercie de toujours suivre cet événement avec intérêt.
Très bon festival, à bientôt.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Hi, I'm Jean-Paul Jones and I'd like to invite you to the 10th anniversary of the festival Mandoline de Lunel at 29th of October and onwards. So, I shall be there, hope you will be too. A tout à l'heure.
Et c'est ainsi que se referme cette auberge espagnole proposée et réalisée par Gilles Gouget.
Broken love